Je parlerai aujourd'hui de l'anglicanisme. La réforme en Angleterre se fit, pourrait-on dire, par étapes. Sous Henri VIII, un roi plutôt antipathique, ce ne fut qu'un schisme de 1491 à 1547. Cela tourna à l'hérésie sous Édouard VI, jusqu'en 1553, malgré une tentative de retour au catholicisme en 1558 sous Marie Tudor, qui l'Angleterre vira effectivement au protestantisme avec Élisabeth Ier, reine de 1558 à 1603. Ce fut un siècle plein de têtes coupées dans tous les camps. Un ambassadeur vénitien écrivait à propos des Anglais « Il est étonnant de voir le despotisme et la servilité de cette nation. L'autorité du souverain à force de loi, ce que le roi croit, les sujets le croient. Le roi est tout. Il convoque rarement le Parlement, seulement pour lui servir de manteau. » Notons que l'Angleterre avait déjà connu des crises, par exemple en 1378, avec Wycliffe, qui contestait les indulgences et prêchait un retour à la Bible comme seule source de foi. Il envoya dans les campagnes les Lobards, qui menaient une vie pauvre et pénitente, mais toujours insoumis, se voulaient ennemis des fortunés. Ces Lobards provoquèrent plusieurs révoltes de paysans. Leur doctrine fut condamnée en 1401. Du point de vue politique, l'Angleterre ne cherchait pas à se séparer de Rome, du moins au début, car il y avait Charles Quint. Elle demandait l'appui du Saint-Siège pour tenter de récupérer la Normandie. L'arrivée de la réforme fut plus lente qu'en Allemagne, en bonne partie grâce à l'attachement des Anglais à leurs traditions. Le peuple voyait les évêques officier avec les mêmes ornements, les cérémonies restaient apparemment les mêmes, les principes n'ont été entamés que petit à petit sous Édouard VI. Henri VIII est resté célèbre, ne serait-ce qu'en raison de ses 6 femmes dont il fut décapité 3, la dernière ayant échappé à la hache du bourreau grâce à la mort de son mari, et cela de justesse. On a dit qu'il avait servi de modèle à Barbe Bleue. Dès l'âge de 20 ans, ses proches constataient le développement de sa férocité. Il était violent dans l'orgueil de son despotisme, faisant de son absolutisme une religion, voire un fanatisme. Il voulait avoir raison envers et contre tout, allant jusqu'à la cruauté. De plus, il n'hésitait pas à changer d'avis. À 20 ans, Thomas More était son favori. Il l'invitait à sa table. Il lui demandait de l'instruire, car il faisait de la théologie avec tous. Il discutait théologie aussi avec sa femme, Catherine d'Aragon, qui avait 6 ans plus que lui. Mais pour garder ses faveurs, il fallait vanter ses mérites. Henri VIII disait « L'hérésie s'est répandue en Allemagne parce que les princes sont ignorants. » Il se croyait brillant théologien et avait demandé au pape de l'introniser défenseur de la foi. On pourrait lui appliquer une devise des Shadoc « Je dis des choses tellement intelligentes que parfois je ne le comprends plus moi-même. » Au bout de 17 ans de mariage, Catherine d'Aragon, qui n'avait eu qu'une fille, Marie Tudor, commençait à lui déplaire. Elle devenait plus laide, disait le roi. Le roi regardait Anne Boleyn, une très belle personne. Le roi Henri VIII essaya de convaincre des théologiens pour justifier le divorce qu'il souhaitait. Il prenait comme prétexte qu'il avait épousé la sœur de sa belle-sœur. Après 17 ans de mariage, il était temps de s'en apercevoir. Luther lui fit dire qu'il valait mieux d'avoir 2 femmes que d'en supprimer une. Le pape, qui se sentait menacé par Charles Quint, essaya de gagner du temps et voulait garder l'alliance de Henri VIII, pensant au début qu'il ne s'agissait que d'un caprice. Mais il finit par déclarer le divorce impossible. Nul pape n'a failli quant à la doctrine. Il y eut des flatteurs, dont Thomas Cranmer, premier archevêque de Canterbury, qui prononça le divorce et prépara les 42 articles fondamentaux de la religion anglicane. Il fut brûlé comme hérétique par Marie Tudor. Un civil, Cromwell, alla jusqu'à dire au roi « Faites-vous chef de l'Église ». Il fut décapité par Marie Tudor. En revanche, l'évêque de Rochester, à qui Henri VIII avait confié l'éducation de ses enfants, resta inflexible. Il fut décapité tout de suite. Henri VIII se pensait décidément chef de l'Église. Il fit accepter par le Parlement une loi dont les 2 premiers paragraphes étaient « Premièrement, le roi est le chef de l'Église. Deuxièmement, le mariage du roi étant nul, le roi est autorisé à prendre pour épouse Anne Boleyn. » La loi fut applaudie par tous, sauf par l'évêque de Rochester déjà nommé et par Thomas More, tous deux décapités et canonisés depuis. Thomas More fut condamné d'abord à la pendaison et à avoir le ventre ouvert, mais le roi lui fit la grâce d'être simplement décapité. Il était affaibli, le bourreau dut l'aider à monter sur l'échafaud. Il le remercia en ajoutant « Pour descendre, ne vous faites pas de soucis, je me débrouillerai tout seul. » L'humour ne perd pas ses droits chez les authentiques britanniques. Thomas Cromwell fut nommé vicaire général. Henri VIII en profita pour piller les monastères. Anne Boleyn souffrit beaucoup de son mariage. Au bout de 3 ans, elle fut accusée d'adultère et sombra dans la folie. Avant d'être exécutée, elle demanda à s'agenouiller devant la Sainte Hostie. Elle porta ses mains au cou qu'on allait trancher en disant « Après tout, il est bien petit ». Pendant ce temps, Catherine d'Aragon attendait la fin en prison pendant plus de 15 ans. Bien engagé dans un schisme, Henri VIII s'est toujours appuyé sur saint Thomas d'Aquin, du moins officiellement. Cela ne l'empêchait pas d'accuser de haute trahison les catholiques qui niaient la suprématie du roi en matière religieuse, mais il professait la présence réelle, la communion, le célibat des prêtres et même la confession, tout en se proclamant violemment contre le pape. Le peuple restait globalement catholique, tout en rejetant la religion de l'Espagne et de Marie Tudor. Il est difficile d'accorder le spirituel au temporel. Après la mort d'Henri VIII, son fils Édouard VI laissa l'hérésie se propager sous l'influence de Thomas Cranmer. Bien que prêtre et évêque, il épousa une nièce de Luther. Pendant 13 ans, il continua à dire une messe à laquelle il ne croyait guère, en cachant sa femme. Il était luthérien dans l'âme. Il fut exécuté sous Marie Tudor pendant encore une tête. Les protestants le considèrent comme martyr. Le côté protestant de l'Angleterre s'accentuait. Édouard VII mourut en 1553. Marie Tudor lui succéda. C'était un beau caractère, plutôt bienveillant. Mais séparée de sa mère, elle eut une enfance malheureuse où elle se trouvant réduite à feindre de maudire ce qu'elle aimait. Le jour de son mariage, elle a déclaré que son royaume serait son premier époux. Elle persécuta les protestants, ce qui lui valut le nom de Marie la Sanglante, nom donné encore à un cocktail. Elle était mariée avec Philippe, fils de Charles Quint, et le fait d'être liée avec l'Espagne faisait horreur aux Anglais, ce qui empêcha la restauration catholique. À Marie Tudor succéda à sa demi-sœur Élisabeth, fille d'Henri VIII et d'Anne Boleyn, que Marie Tudor avait épargnée par affection. Elle en fut bien mal récompensée. Élisabeth installa une autorité absolue en liaison avec le Parlement. Elle rétablit l'anglicanisme d'Henri VIII, aggravé par Cranmer en 1563. Elle promulgua les 42 articles, réprima avec sévérité les calvinistes et les catholiques et donna son appui aux Pays-Bas révoltés. Elle fit monter Marie Stuart sur l'échafaud en 1587. L'invincible armada fut détruite en 1588. Mais elle ne put récupérer Calais. Son règne connut une remarquable activité artistique, l'époque élisabéthaine. C'est aussi sous son règne qu'eut lieu la conquête de l'Écosse. Marie Stuart, fille de Jacques V d'Écosse, avait été élevée en France. Elle était fort cultivée. Elle a été mariée à François II, roi de France, alliée à Jacques V, qui fut vaincu par les Anglais en 1540. À la mort de son mari, elle retourna en Écosse où se développait une révolte presbytérienne. Elle se remaria avec un gentilhomme protestant qui fut assassiné avec plusieurs de ses favoris. Elle se libéra de ses révoltés et reprit la lutte contre les Anglais, mais son armée fut sévèrement battue en 1568. Elle se réfugia en Angleterre où elle passa 18 ans en prison. Elle soutenait néanmoins les partis écossais, ce qui lui valut un procès, une condamnation à mort en 1586. Sa fermeté et son courage furent célébrés par de nombreux écrivains. L'anglicanisme fut une importante fracture de la tunique sans couture, encore plus importante que le schisme d'Orient et ses multiples ramifications. Même si les forces de l'enfer ne peuvent faire sombrer l'Église, elle ne les empêcha pas de la secouer très fort. Voilà. La prochaine fois, ce sera la veille du carême.